Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les plus célèbres dans leur genre, les sœurs Fox. Jamais étudiées d'une manière scientifique, cela dit. Angélique Cottin, électrique. Que peut-il se passer dans l'obscurité ? Dématérialisation de mains, de têtes, la lévitation d'une table, qui en est responsable ? Le ou la médium ou le public qui souhaite croire ? Voir et croire, c'est la même chose. On doit constater que rien n'a jamais été prouvé. Et peut-être que si elle ou il triche, le ou la médium ne sait pas toujours si elle ou il triche. Il faudrait étudier la psychologie des médiums et celle des prestidigitateurs. S'intéresser à ce phénomène, ce n'est pas y croire, c'est étudier un monde et se faire sa propre idée. Dans Dossier secret, le 26 décembre 1957, Luc Bérimont proposait aux auditeurs de la chaîne parisienne d'approcher les grands médiums.
Luc Bérimont présente Robert Amadou dans Les grands médiums. Une enquête radiophonique réalisée avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide. Mise en onde, Bernard Gandré-Réty. Collaboration artistique, Hélène Delabrusse et Anne Spies. Les grands médiums. Une enquête du dossier secret.
C'est Luc Bérimont qui vous parle. Mesdames, messieurs, le sujet des grands médiums que nous avons choisi de vous présenter ce soir ne peut manquer de retenir votre intérêt par la richesse de la documentation qu'il vous apporte. Robert Amadou, qui va le traiter dans un instant à ce micro, spécialiste de la parapsychologie, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'occultisme, vous dira ce qu'il convient de penser, à son point de vue, de ces carrières exceptionnelles vouées à l'exploitation du mystère. Robert Amadou vient de publier chez De Noël un livre remarqué et remarquable qui reprend avec beaucoup plus de détails les grandes lignes de cet exposé. Le titre de cet ouvrage est également « Les grands médiums ». Je n'ai pas cru devoir le modifier pour la circonstance. On trouve, sur la page de garde, cette citation de Giraudoux, ou plutôt ce fragment de dialogue, extrait d'Intermezzo et qui m'enchante. « Vous y croyez à ce spectre ? Vous l'avez vu ? » demande quelqu'un. « Eh, j'ai vu des gens qui l'ont vu !» répond un autre. Des témoins dignes de foi. L'un d'eux est commandeur du grand dragon de la NAM. S'il croit au grand dragon de la NAM, il est déjà suspect. Robert Amadou, je vais donc vous demander d'ouvrir le dossier des grands médiums. Et tout d'abord, je crois qu'il faudrait donner une définition du terme. Qu'appelle-t-on médium ?
Bien, je voudrais dire tout de suite que le mot médium est d'un usage assez récent. Est-ce que la chose était ancienne ? Ça, on peut en discuter. En tout cas, le mot médium est lui-même d'un usage assez récent puisqu'il remonte aux origines du spiritisme. Le spiritisme, cette nouvelle forme de la nécromancie, de la communication avec les morts, qui est née en 1848, vous le savez, dans l'état de New York, dans la maison des sœurs Fox, où se produisaient des phénomènes de hantise, des phénomènes mystérieux de bruit, de coups et d'apparitions. Ce phénomène a attiré l'attention sur beaucoup d'autres phénomènes du même genre, que l'on a appelés ensuite paranormaux, parfois même surnaturels. Et le spiritisme, conformément à son idée d'une correspondance entre le monde des vivants et le monde des morts, a prétendu que ces phénomènes étaient attribuables à l'action des esprits par l'intermédiaire, et c'est là que le mot médium arrive, trouve son origine, par l'intermédiaire de sujets particulièrement doués. C'est Allan Kardec qui définissait le médium comme l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts. Tous les ouvrages de spiritisme se trouvent de grands ancêtres. Et ils prétendent, et ce n'est certainement pas faux d'un simple point de vue d'histoire des religions ou même d'histoire des sciences, ils prétendent être les héritiers de tous ceux qui, avant eux, ont cherché à entrer en communication avec les morts. Ils prétendent aussi être les héritiers, en tant qu'observateurs ou en tant qu'agents, de tous ceux qui ont observé ou produit des phénomènes extraordinaires.
Eh bien, limitons-nous au monde contemporain. Les sœurs Fox, en 1848, sont les témoins de ces manifestations étranges. Comment cette chose est-elle reçue? Comment cette chose est-elle accueillie par le public?
Elle est accueillie d'abord par les voisins. Enfin, d'abord par la famille, ensuite par les voisins. Au bout de quelques semaines, il y a 500 personnes de la ville auxquelles vont s'adjoindre bientôt des personnes de l'État de New York, d'autres villes voisines, qui arrivent, et petit à petit, le spiritisme va naître. Petit à petit, cet intérêt va se développer et le spiritisme va prendre un essor extrêmement rapide, puisque quelques années seulement après les premières manifestations de la maison familiale des Fox, on prétend, et le chiffre est sans doute à peu près vrai, qu'il y avait 10 000 médiums en exercice aux États-Unis. Je dis 10 000 médiums qui chacun avaient un petit cercle d'admirateurs et d'observateurs. Et quelques années après aussi, suivant la naissance du spiritisme à Hightsville, se tient à Cleveland le premier congrès spirite où véritablement le spiritisme apparaît comme une nouvelle religion, comme un mouvement de pensée qui a déjà de nombreux adeptes, qui a déjà toute une popularité, qui est discutée, qui est combattue, qui est approuvée par d'autres, qui commence à s'élaborer et qui bientôt va passer l'Atlantique, qui bientôt va s'installer en Angleterre, qui bientôt va passer sur le continent et va arriver en France, en Allemagne, en Italie et pratiquement se répandre sur toute l'Europe. Le mouvement va se répandre, il faut le remarquer, je crois, avec une très grande rapidité.
Oui, j'imagine que les adeptes étaient nombreux, mais il n'en est pas moins vrai qu'il devait y avoir un nombre égal et même beaucoup plus grand d'adversaires. Quels étaient les arguments que les adeptes avançaient dans les discussions de ce temps-là?
Eh bien, les arguments étaient les suivants. Le spiritisme, disait-il, est une religion scientifique. C'est un ensemble de croyances, d'ordre métaphysique ou d'ordre moral, fondées sur l'observation des faits. Car ces faits paranormaux, qui sont à l'origine du spiritisme et qui existaient déjà avant, le spiritisme les interprète comme une manifestation des esprits et prétend par conséquent donner un fondement expérimental aux croyances qui seront déduites de ces manifestations ou même qui s'exprimeront par la bouche des médiums, puisque ce qui s'exprimera par la bouche des médiums, ce sera une entité ou des entités de l'au-delà.
Mais c'est uniquement par les expériences des médiums que l'on rejoint le côté scientifique de la question.
Oui, certainement. Il faudrait distinguer, n'est-ce pas, dans le spiritisme, précisément cette doctrine métaphysique, cette doctrine morale, qui se retrouve dans les écrits ou dans les paroles prononcées par les médiums, mais qui révèle des influences, notamment des influences chrétiennes certaines. Il y a toute une sorte d'humanitarisme spirit et de vague christianisme, au fond très, très protestant, d'ailleurs, dans la doctrine spirit. Mais, bien entendu, ça n'est pas ces doctrines elles-mêmes que la science, sinon l'histoire des religions, bien sûr, pour qui le spiritisme est un phénomène tout de même très remarquable. Et très curieux. Ce n'est pas ces phénomènes que, disons, la science expérimentale, enfin la psychologie ou même la physique, peuvent évidemment étudier. Aussi bien, si l'on considère l'attitude du savant à l'égard de ces phénomènes, je crois qu'il faut d'abord faire abstraction de la partie dogmatique ou de la partie morale. Il faut prendre simplement les phénomènes, comme le savant lui-même veut prendre des phénomènes. Et puis, peut-être est-ce l'occasion de distinguer entre les différents phénomènes qui sont attribués par les spirites à des médiums. C'est-à-dire certains phénomènes plus intellectuels et d'autres plus physiques. Les uns plus intellectuels, c'est-à-dire des phénomènes de voyance ou des phénomènes de télépathie, et puis d'autres plus physiques qui seraient des déplacements de corps à distance, des lévitations des médiums ou des assistants, des apparitions, des moulages dont l'origine n'apparaît pas d'une manière claire. Il y a en somme deux grands ordres de phénomènes, et bien entendu, ce sont ces phénomènes et ces phénomènes seulement que le savant peut étudier en tant que psychologue ou en tant que physicien.
Est-ce que vous pouvez, Robert Abadou, essayez de nous recréer l'ambiance de ce qu'était à cette époque une séance de spiritisme.
Mais je crois que recréer l'ambiance d'une séance de spiritisme à cette époque, c'est à peu près décrire une séance de spiritisme de nos jours. Je ne crois pas, en effet, qu'il y ait eu une très grosse différence. Et là encore, il faudrait distinguer, je pense, entre des séances de spiritisme à proprement parler, où participent seulement des spirites, dans un but qui est un but en partie religieux, en partie d'édification. En somme, les manifestations que des croyants suscitent, qu'ils observent, qu'ils respectent, qu'ils les intéressent. Et puis, des séances plus scientifiques, comme, nous en dirons peut-être un mot tout à l'heure, comme il y en a eu autour des principaux médiums. Alors, cette ambiance, chez les spirites, elle est assez simple. Un groupe d'assistants observe dans l'obscurité. Et en général, après avoir chanté des chants ou des cantiques, parfois même des chants profanes, observe un médium qui entre dans un état de transe. Je décris ce qui se passe, n'est-ce pas, sans porter de jugement sur la sincérité du médium ou sur la nature de cet état. Ça, c'est un tout autre problème. Mais on observe, si vous voulez, un médium qui entre en transe, qui est considéré comme saisi par un esprit et qui, à ce moment-là, ou bien parle, ou bien écrit, ou bien livre des messages d'une manière quelconque, ou bien encore produit des phénomènes de voyance, ou produit des phénomènes physiques de lévitation, de table, ou de ce genre. Voilà, en somme, en gros, comment se passe la séance qui peut durer d'une heure à trois heures. La durée, évidemment, est très variable, et le succès de ces expériences est également très variable.
Les preuves scientifiques, les fameuses preuves scientifiques dont vous nous parliez tout à l'heure, au fond, ce ne sont jamais que des preuves basées sur la bonne foi des assistants ou du médium lui-même.
Oui, en fait, c'est tout de même beaucoup plus, puisque la plupart des séances qui ont été organisées dans une intention scientifique, peut-être pas toujours d'une manière scientifique, mais au moins dans une intention scientifique, la plupart des séances qui ont été organisées visaient précisément à éliminer toute possibilité de fraude de la part du médium. On a toujours craint que le médium triche, et non seulement on l'a craint, mais on a eu d'innombrables exemples de tricherie et de fraude. Aussi bien, même les spirites les plus convaincus admettent ce que tous les savants qui sont occupés de ces problèmes ont maintes fois constaté, à savoir que le médium, qu'il soit par ailleurs capable ou non de produire des phénomènes authentiques, fraude.
Et pourquoi le médium fraude-t-il ?
Ça, c'est une très curieuse question. La plupart des médiums fraudent, Flammarion, par exemple, qui était un grand astronome, mais qui était aussi un spirit, et qui avait fréquenté beaucoup de médiums, qui avait reçu dans son salon de la rue de l'Observatoire un grand nombre de ses sujets, écrivait, Dieu sait que son témoignage n'est pas suspect, qu'à son avis, il n'avait jamais rencontré un médium qui ne fraude pas. Alors, on peut évidemment envisager ce problème. Je crois que c'est un problème assez délicat, mais également très intéressant. Je ne suis pas sûr que la plupart des médiums fraudent pour des raisons financières. J'en suis pas sûr. Dans certains cas, ça peut être un élément accessoire, ça peut être aussi une incitation à frauder. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit l'élément déterminant. Et même lorsque c'est l'élément déterminant, je crois qu'au fond, l'argent prend à ce moment-là une valeur symbolique. Oh, je sais bien que les séances, par exemple, du Neusapia Palladino étaient fort bien payées. Avant la guerre de 1914, dans les dernières séances qu'elle avait tenues, Eusapia Palladino touchait 300 francs par séance. Ce qui représente une somme assez considérable pour l'époque et pour des séances relativement courtes. Mais enfin, je pense pas tout de même que ce soit l'élément déterminant. Je crois que l'élément déterminant, c'est d'abord un certain exhibitionnisme, c'est d'abord une certaine volonté de paraître, et une certaine volonté aussi, parce qu'il y a une grande sincérité chez la plupart, une certaine volonté de prouver la réalité du spiritisme. Et puis, je crois qu'il faut surtout, si on veut évaluer la responsabilité du médium, tenir compte de l'état de conscience ou seulement de semi-conscience où se trouve le médium. Il est extrêmement fréquent que le médium ne se rende pas très bien compte dans l'état de transe où il est, s'il triche ou s'il ne triche pas. Puis, toutes les combinaisons sont possibles. Enfin, il arrive par exemple que certains médiums ont déclaré, après avoir été pris en flagrant délit de fraude, qu'ils étaient eux-mêmes convaincus de l'authenticité des phénomènes qu'ils produisaient. Et je crois qu'on ne doit pas mettre en doute, on peut mettre en doute l'authenticité des phénomènes, il faut probablement même le faire, mais je crois pas qu'on peut nier leur sincérité lorsqu'ils disaient qu'ils croyaient vraiment être capables, par l'intermédiaire des esprits ou par les esprits qui s'exprimaient en eux, lorsqu'ils disaient qu'ils étaient capables de réaliser ces phénomènes, je crois vraiment qu'ils étaient sincères. Mais alors ce qui est curieux, c'est la suite du raisonnement. C'est-à-dire qu'étant convaincus de l'authenticité des phénomènes qu'ils pouvaient produire, et se trouvant, disait-il, dans l'incapacité de les produire au moment où on les attendait, Il craignait que les savants ne tirassent une fausse conclusion, à savoir qu'il n'y avait pas de phénomène de ce genre, et il fraudait pour que les savants tirent, même sur de prémices fausses, une conclusion exacte. Vous voyez que c'est tout de même extrêmement curieux comme raisonnement, et la psychologie du médium n'est sûrement pas une psychologie simple.
Robert Madou, à ce point de votre exposé, je crois que nous ne saurions mieux faire que d'essayer d'aborder individuellement la vie de chacun de ces médiums. Cette émission s'intitule « Les grands médiums ». Il vous appartient donc de nous les présenter.
Lorsqu'on prend le mot « grand médium » comme vous venez de le prendre, je crois qu'il faut le prendre au sens strict, c'est-à-dire depuis qu'on utilise ce terme. Il ne faut pas remonter au cas de Hantys, qui a décrit Pline, par exemple. Il faut parler depuis la naissance du spiritisme. On peut peut-être tout de même faire un petit retour en arrière, et dans l'ouvrage que vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure, j'ai tout de même cité un cas antérieur au spiritisme, c'est-à-dire un cas de médium avant la lettre. Pour une raison assez simple, c'est que je crois que lorsqu'on veut étudier les grands médiums, d'une manière scientifique, il faut évidemment examiner les séances scientifiques qui ont été tenues avec des grands médiums. Or, il y a, avant l'avènement du spiritisme, un cas de sujet extraordinaire qui a été étudié par une commission scientifique. Je crois qu'il mérite d'être rappelé, c'est le cas d'une jeune fille qui se nommait Angélique Cottin et qui, en 1846, produisit un nombre de phénomènes tellement extraordinaires qu'on la surnomma la fille électrique. Cette fille fut étudiée d'abord par des médecins du village, elle habitait un petit village de l'Orne, elle avait d'abord été voir le curé avait été fort inquiet, avait même refusé de pratiquer l'exorcisme en pensant qu'il y avait peut-être supercherie ou même peut-être, car le curé ne manquait pas de bon sens, d'un phénomène purement naturel. Puis des médecins de l'endroit commençaient à s'y intéresser et finalement le bruit de cette fille électrique arriva jusqu'à l'Académie des sciences. L'Académie des sciences étudia cette adolescente et un rapport fut présenté par cette commission à la tête de laquelle se trouvait Arago. C'est en somme le premier cas, je crois, d'une commission scientifique qui, dans des conditions excellentes et meilleures, il faut bien le dire, que celles qui ont été réalisées par beaucoup de savants dans la suite de l'histoire des grands médiums, c'est, je crois, le premier cas d'une commission scientifique s'intéressant à ce qui, vraiment, même avant la lettre, est un grand médium. C'est-à-dire un sujet qui semblait capable de faire virevolter les tables, les chaises, les corbeilles autour d'elle, absolument sans contact par sa seule présence. On l'appela la fille électrique, c'était une tendance scientiste de l'époque, ça peut s'expliquer. En fait, on s'aperçut non seulement que l'électricité n'avait rien à voir dans l'affaire, mais encore que lorsque Angélique Cottin était soumise à un contrôle strict, aucun phénomène ne se produisait. Et le rapport présenté par la commission et signé d'abord par Arago est absolument formel et prétend que les phénomènes n'ont pas eu lieu. Du moins, n'ont pas eu lieu en présence des observateurs. Il est toujours loisible, bien sûr, dans des cas de ce genre, de dire que les phénomènes se seraient passés si les observateurs avaient été plus gentils ou qu'ils se sont passés avant. Mais enfin, ça, c'est une matière d'opinion. Si on veut juger d'une manière scientifique, il faut bien prendre en considération les résultats d'une commission scientifique.
C'est donc ici l'ancêtre des grands médiums. Mais que voit-on apparaître immédiatement après Angélique Cottin?
Eh bien, on voit immédiatement après apparaître les fondatrices du spiritisme dont nous parlions tout à l'heure, les sœurs Fox, Margaret et Cathy Fox. Ces sœurs Fox, il faut, je crois, le dire tout de suite, n'ont jamais été étudiées d'une manière véritablement scientifique. Elles ont donné d'innombrables séances, elles ont rapidement été obligées de quitter la ville de Hydesville après avoir été exclues de l'église méthodiste où elles apparaissaient produisant un véritable scandale. Elles ont été à Rochester, elles ont été ensuite s'installer à New York, elles ont fait des voyages en Angleterre, elles ont été observées par un certain nombre de savants. Il faut bien dire qu'elles n'ont jamais été observées d'une manière vraiment rigoureuse. En somme, il n'y a pas vraiment d'observation des sœurs Fox qui puisse être discutable, disons, par un psychologue ou un parapsychologue contemporain. On les a observés dans bien des cas, mais jamais d'une manière qui puisse être contraignante. Et là, je crois qu'il faut ouvrir une parenthèse et signaler qu'on a fait beaucoup état de certains aveux qui avaient été passés par les sœurs Fox. Et en effet, Margaret Fox d'abord, puis Cathy Fox, ont en effet avoué, l'une et l'autre, en des circonstances différentes, avoir entièrement truqué, avoir entièrement trompé leur public. Et puis ensuite, elles se sont rétractées. Un an environ après, elles sont revenues sur leurs aveux, ont raconté une histoire assez sombre d'une machination d'ennemis du spiritisme et ont prétendu que ces aveux leur avaient été arrachés. Et alors là, quelle que soit la prudence qui s'impose dans un domaine comme celui-là, je crois qu'il ne faut pas attacher à ces aveux une trop grande importance, ni d'ailleurs à la rétractation. Je ne sais pas si elles étaient sincères en avouant ou en se rétractant. Je ne sais pas si c'était les aveux qui étaient sincères ou la rétractation qui était sincère. Je ne sais pas comment ces différents éléments se combinent et je crois que personne ne peut le savoir. Il faut d'ailleurs souligner qu'elles s'adonnaient à la boisson d'une manière quotidienne et extrêmement suivie, ce qui complique encore un petit peu le problème. En fait, je crois vraiment qu'on ne peut rien tirer de ces aveux et que ni les aveux ni la rétractation ne prouvent rien.
Et que faisait-elle exactement, ces sœurs Fox? Est-ce que, comme la fille électrique, elle faisait virevolter les objets autour d'elle?
Oh, elle faisait beaucoup de choses, mais l'un des phénomènes les plus fréquents que l'on ait attribué aux sœurs Fox et que de nombreux observateurs aient constaté est le suivant. Elle produisait ce que les spirites ont appelé, même les spirites d'autres langues, ont appelé d'un mot anglais des raps, c'est-à-dire des bruits, des craquements d'origine... inconnue ou inexplicable, nous dit-on. Et les sœurs Fox avaient, dès leurs premières expériences, dès les premiers phénomènes de la maison familiale, avaient déjà produit ces raps, et elles les produisaient à peu près pendant toute leur carrière. C'est probablement l'un des phénomènes les plus constants qu'on ait attribué aux sœurs Fox, et l'un de ceux, il faut le dire, sur lesquels la sagacité et parfois l'ironie des savants se sont le plus exercés, en se demandant à quel appareil, ou peut-être même simplement à quel procédé purement anatomiques, elles avaient pu recourir pour obtenir ces craquements.
Et en partant de ces bases, de ces racines, comment la lignée des grands médiums va-t-elle se développer, Robert Abadou?
Eh bien, je crois qu'après les sœurs Fox, le premier grand médium qui apparaissent dans l'histoire du spiritisme et dans l'histoire de la métapsychique, puisque l'intérêt des savants a suivi la foi des croyants et que les séances scientifiques ou d'inspiration scientifique ont très vite coexisté avec les séances proprement spirites, je pense que le premier médium qu'il faudrait citer est Home, Douglas Home, de nationalité anglaise, qui probablement atteint à une popularité qui n'a jamais été atteinte par aucun grand médium ensuite. Home se produisit dans la plupart des cours d'Europe et en particulier à la cour impériale de Russie et à la cour des Tuileries ou à Biarritz devant Napoléon III et l'impératrice Eugénie. C'est un homme qui était fort recherché dans les salons. C'est un homme à qui on prêta aussi les phénomènes les plus extraordinaires et des phénomènes que probablement aucun autre médium après n'a osé revendiquer, comme par exemple d'être tout d'un coup soulevé et de s'envoler par une fenêtre ou de se placer dans un coin d'une pièce et de soulever à distance et sans y toucher une table extrêmement lourde. Je crois vraiment que Home est le plus grand médium que l'on puisse citer d'abord après la naissance du spiritisme, et peut-être le plus grand médium, si on prend ce terme dans un sens purement sociologique, peut-être le plus grand médium qui ait connu l'histoire du spiritisme ou l'histoire de la métapsychique. Malheureusement, les phénomènes n'ont jamais pu être constatés d'une façon vraiment définitive. Le seul savant qui se soit intéressé à eux, car on ne peut guère attribuer d'importance à ces hommes et ces femmes du monde qui l'entouraient et qui auraient été dupés même par un prestidigitateur peu habile et qui ensuite s'amusaient beaucoup et qui souhaitaient croire. On ne peut pas attribuer beaucoup d'importance à toutes ces séances dont on nous donne un peu l'adresse quelquefois, mais souvent une date inexacte. On ne sait pas quels assistants étaient présents, on ne sait pas si des complices pouvaient s'introduire. Les rapports faits par les uns et par les autres divergent souvent sur des points importants. Enfin, vraiment, ces réunions de salon, qu'il s'agisse de salons de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, où Home fréquentait pas mal, ou qu'il s'agisse de la cour impériale de Russie ou de la cour des Tuileries, vraiment, ces séances ne peuvent pas être considérées comme ayant une valeur scientifique quelconque. Le seul savant qui se soit occupé de Home était Crookes. William Crookes, savant incontestable, très grand savant sans aucun doute, très grand physicien, qui expérimenta pendant près de 2 ans avec Home, dessina tout un appareillage qu'il fit réaliser, auquel il soumit le médium pour constater qu'il était capable de soulever à distance des objets pesants. Et Crookes parvint à la conclusion que les pouvoirs de Home étaient certains. Malheureusement, Crookes opérait en général seul avec Home, et dans ce genre d'expérimentation, je crois que la première exigence que l'on doit avoir, c'est celle d'une commission, et pas d'un individu seul, qui est capable de voir ce qu'il veut voir, ou de dire ce qu'il croit avoir vu. Il était donc seul, parfois il y avait autour de lui, certes, certaines personnes de sa famille ou de sa domesticité, mais qui n'étaient pas non plus très exercées. Et puis surtout, William Crookes avait une certaine conception de la politesse et de la courtoisie qui était incontestablement justifiée à l'égard de ses collègues physiciens, qu'il était peut-être moins à l'égard d'un médium. Et par exemple, il refusait la plupart du temps de fouiller le médium avant qu'il ne commence sa séance, ce qui est évidemment très grave. Alors, je ne pense pas qu'on puisse vraiment attribuer à ces propos, à ces conclusions, pourtant extrêmement formelles de Crookes, je ne pense pas qu'on puisse vraiment leur attribuer une valeur scientifique certaine.
Mais quelle explication scientifique Crookes donnait-il? Car il devait en fournir une.
Ah, Crookes donnait une explication, mais une explication qui, il faut bien le dire, était purement verbale, qui était la suivante: il y a une certaine force qui est une force psychique. Et cette force psychique permet aux médiums de réaliser la plupart de leurs phénomènes. Car Crookes n'était, au moins à cette époque, n'était pas toujours spirit. Il ne donnait pas toujours une interprétation spirit. Et dans une certaine volonté naturaliste, avait imaginé cette force psychique, cette sorte de force de l'esprit qui serait capable de s'appliquer à des objets matériels et de produire ces phénomènes que nous produisons habituellement à l'aide de nos membres. Je crois qu'il faut être extrêmement réservé sur les conclusions que Crookes a cru pouvoir tirer de son expérimentation, et je dirais d'autant plus réservé qu'après avoir étudié Home et après avoir cessé cette expérimentation d'une manière d'ailleurs brutale et pour des raisons qui n'ont jamais été très bien éclaircies, Crookes a étudié un autre médium, et là, il faut bien le dire, a été dupé, a été trompé d'une manière tellement grossière que toutes les réserves semblent s'imposer.
Et quelle est cet autre médium qui avait berné le savant?
Eh bien, cet autre médium avait nom Florence Cook. C'était un médium d'un genre un peu particulier, puisqu'elle était spécialisée dans les apparitions de fantômes, ou plus exactement les apparitions d'un fantôme, lequel fantôme portait aussi un nom qu'il avait lui-même, ou qu'il avait elle-même plutôt, puisqu'il s'agissait d'une entité féminine, qu'elle avait elle-même décliné lorsqu'on le lui avait demandé, et cet autre nom, ce nom de l'entité, était Cathy King. Florence Cook était assise, liée, attachée, dans un cabinet noir, une sorte de petit réduit constitué par des rideaux qui séparaient ce coin de la pièce du reste de la salle. Et là, elle entrait en transe et prétendait, sans quitter le siège sur lequel elle avait été liée, être capable de faire apparaître ce fantôme. Ce fantôme était visible, il était tangible et il se promenait dans la salle. Les assistants pouvaient le voir, pouvaient lui parler, pouvaient la toucher. Et dans ses souvenirs, Oliver Lodge rapporte qu'on la vit à la table de famille.
Mais quelle explication donnait cette matérialisation?
Bien, l'explication que le médium donnait lui-même et que Crookes avait approuvée, c'est que le médium restait dans son cabinet et qu'une entité venue de l'au-delà se matérialisait grâce à la force psychique de ce médium et pouvait être vue, touchée, entendue dans la salle. Maintenant, pour avoir une preuve convaincante de cette théorie ou tout au moins de l'existence de ce fantôme indépendamment du médium, il eût fallu évidemment voir le médium et le fantôme en même temps. C'est ce qui malheureusement ne se produisit jamais.
Et dans votre généalogie, Robert Amadou, quels sont les grands médiums qui apparaissent encore?
Oui, il y en a beaucoup qu'on pourrait citer, puisque après Crookes, ce sont presque tous les grands savants de l'époque contemporaine, ou au moins un grand nombre d'entre eux, qui se sont intéressés à ces problèmes, qui en ont tiré d'ailleurs des conclusions différentes, qui ont été convaincus ou pas convaincus. Les uns ont été spirites, ont été convertis au spiritisme, d'autres ont prétendu que les faits existaient mais que l'interprétation spirite ne valait pas, et puis d'autres ont prétendu que rien n'était prouvé. Là, il y aurait beaucoup de médiums qu'on pourrait citer, je crois qu'il y a un nom qu'il faut tout de même mentionner, c'est celui de Zappia Palladino. Zappia Palladino, si Home a été le plus célèbre et le plus populaire dans les milieux mondains, Zappia Palladino, elle, a sans doute été la plus célèbre et la plus populaire dans les milieux scientifiques. Elle a été étudiée de très très nombreuses fois dans plusieurs pays, et véritablement tous les grands noms de physiciens, de biologistes, de psychologues de l'époque se retrouvent au bas des rapports, dans la liste des signatures. On pourrait citer notamment les expériences peut-être les plus belles, les plus les plus intéressantes et les plus rigoureuses qu'on ait effectuées, qui ont été faites à Paris, à l'Institut Général Psychologique. Et à ces expériences participaient Branly, participait d'Arsonval, participait Charles Richet, bien sûr, qui s'était fait presque une spécialité de ce genre de recherche, participait également Pierre et Marie Curie, participait Jules Courtier, participait un grand nombre de savants très éminents qui, pendant trois séries de séances assez nombreuses, ont étudié Zappia Paladino, lui ont imposé des conditions sévères et ont publié un rapport extrêmement détaillé, extrêmement minutieux, extrêmement honnête, duquel il ne ressort rien de précis, duquel on ne peut rien conclure, sinon que les expériences ont été très bien menées, que des faits peut-être troublants se sont produits, mais que lorsqu'ils se sont produits, on n'avait pas l'enregistrement nécessaire, on n'avait pas les contrôles nécessaires, si bien qu'en fait, c'est à peine un point d'interrogation que pose ce rapport. Soyons indulgents si vous voulez, disons que c'est un point d'interrogation, ça n'est en tout cas pas une certitude d'aucun ordre. Et d'ailleurs, la plupart des participants de ces séances ont tenu à préciser qu'ils avaient vu quelque chose, mais à bien souligner, en bons savants qu'ils étaient, que voir et croire voir étaient au fond la même chose.
Et quelles étaient les spécialités de Zappia Paladino ?
Oh, Zappia Paladino avait une gamme extrêmement étendue. Elle produisait aussi bien des raps, comme faisaient les Sir Fox, que des soulèvements de table à distance, que des matérialisations de mains, des matérialisations de tête qui se produisaient autour d'elle, que des attouchements, que des souffles, qu'un certain nombre de manifestations sensibles, on pourrait dire de tous ordres, enfin, véritablement des manifestations aussi bien auditives que visibles, que tactiles, gustatives peut-être pas. Je crois que c'est le seul secteur où Zappia Paladino ne prétendait pas agir paranormalement. Mais en tout cas, elle avait une gamme extrêmement étendue et prétendait même être capable, si l'on disposait une terre glaise à quelque distance d'elle, d'imprimer, ou de faire imprimer, plutôt, selon ses propres paroles, dans cette terre glaise, des empreintes de mains ou de têtes dont l'explication restait à chercher.
Est-ce que nous en avons terminé à présent avec la liste des grands médiums ?
Oh, nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Il y en a beaucoup avant Zappia, il y en a beaucoup après Zappia. Il y en a tout de même un, je crois, qu'on pourrait citer. C'est un grand médium sociologiquement parce que il prétendait être tel, on l'a considéré comme tel dans la mesure où on a pensé qu'il méritait d'être étudié. Je crois tout de même qu'il faut lui réserver une mention particulière. Parce que, pour ma part, je considérerais volontiers ce personnage comme le plus grand prestidigitateur, peut-être, de notre époque. Cet homme était un Italien qui s'appelait Pasquale Erto, qui a été étudié un peu en Italie, dans des conditions peu rigoureuses, puis ensuite en France, dans des conditions infiniment plus satisfaisantes. Et je pense que le cas d'Erto est extrêmement instructif, car il montre combien la rigueur du contrôle n'exclut pas toujours lorsqu'il s'agit d'un très habile prestidigitateur en présence de savants qui ne le sont pas. Je crois que cette rigueur du contrôle n'exclut pas toujours la possibilité d'une fraude. Le cas d'Erto, en effet, est singulier puisque lorsqu'il est venu à Paris, il a été étudié d'abord à l'Institut Métapsychique International que dirigeait alors le docteur Gelé et puis ensuite à l'Institut du Radium. On faisait subir un traitement, je disais rigoureux, je devrais dire extrêmement pénible aussi, à ce médium avant qu'il n'entre en séance. Et ici, j'aurais dû dire déjà que ce médium lui aussi avait une spécialité particulière, puisqu'il prétendait être capable de faire apparaître des lueurs paranormales. C'est-à-dire qu'il prétendait, alors qu'il était totalement incapable d'utiliser ses membres et même d'avoir le moindre appareillage à sa disposition, il prétendait être capable de faire apparaître autour de sa tête, voire autour de la tête des assistants, des lueurs visibles, enregistrables, photographiables, et dont la cause paraissait absolument incompréhensible et dont le mécanisme semblait inexplicable. Ce qui est intéressant, c'est que les premières séances avaient eu lieu dans des conditions extrêmement faciles et l'on pouvait aisément supposer qu'il avait à sa disposition le petit appareillage dont il pouvait avoir besoin, que les liens dont on entourait ses mains n'étaient pas tels qu'un prestidigitateur d'habileté moyenne ne puisse s'en défaire, et que, somme toute, ça n'était pas tellement extraordinaire. Seulement, lorsqu'il est venu à Paris, il a été soumis à des contrôles beaucoup plus rigoureux et, je disais, beaucoup plus pénibles. En effet, avant de commencer sa séance, cet homme était soumis à des examens anatomiques, à des observations cliniques par un groupe de médecins qui, vraiment, ne laissaient absolument rien au hasard. On lui lavait l'estomac, on le radiographiait, on examinait toutes les cavités du corps avec un soin extrême. Après l'avoir ainsi observé et s'être assuré qu'il ne portait absolument aucun instrument ni aucun produit capable de faciliter la production d'une lueur dite paranormale, on ne l'habillait pas, on l'avait mis totalement nu, on ne l'habillait pas de ses vêtements, mais on lui faisait revêtir une sorte de combinaison sans couture, qui le couvrait entièrement. On lui plaçait sur la tête une cagoule, puis un lien autour de la tête et de la cagoule, puis des gants de boxe qu'on lui mettait aux mains. Ainsi, cet homme était complètement enserré dans sa cagoule, sa combinaison et ses gants. On plaçait autour du cou, autour des poignets et autour des chevilles d'autres liens encore, que l'on scellait et qui véritablement ne permettaient absolument aucun mouvement. Or, ces opérations, Herthaud a pu les réaliser. Pas une fois, mais un certain nombre de fois. Et il a pu les réaliser de telle manière que non seulement il libérait une main et probablement deux, mais encore qu'il parvenait à s'emparer d'un petit morceau de ferrocérium et d'une plume d'acier qu'il avait pu dissimuler aux examens les plus soigneux, et il arrivait à gratter le ferrocérium avec la plume d'acier, à produire ses lueurs dites paranormales et à se remettre ensuite dans la position exacte où on l'avait laissé avant. Je veux dire qu'il y a resté un petit mystère, c'est qu'on n'a jamais su où il cachait le morceau de ferrocérium et la plume d'acier. Le mystère, en fait, on voit bien où en est la solution. Simplement, Herthaud était un génial prestidigitateur et qui, comme tous les prestidigitateurs dans ce cas-là, n'ont pas une seule méthode, mais en ont plusieurs. N'ont pas une seule cachette, mais en ont plusieurs. Et que, selon toute vraisemblance, lorsqu'il était d'abord soumis à l'examen, il avait caché le ferrocérium dans l'anus. Il le prenait ensuite pour le mettre dans la bouche et le placer à la fin dans l'oreille. Enfin, je reconstitue sans doute inexactement, mais c'était quelque chose de cet ordre-là. Toujours est-il que, véritablement, je suis empli d'admiration pour un prestidigitateur aussi habile. Je crois qu'il n'y a pas eu d'exemple d'illusionniste aussi remarquable.
Mais Robert Badou, vous essayez tout à l'heure de nous faire comprendre ce que pouvait être la psychologie des médiums. Si nous essayons à présent de comprendre ce que pouvait être la psychologie des expérimentateurs.
Je crois que cette psychologie est également intéressante et je dirais même encore beaucoup plus intéressante. En effet, nous avons là affaire à des individus dont le psychisme et l'affectivité aussi sont certainement beaucoup plus développés, beaucoup plus étendus que celles des médiums eux-mêmes. Et en particulier, nous avons affaire à des individus, à des personnages, qui devraient professer en matière scientifique, qui professent d'ailleurs en matière scientifique des exigences tout à fait particulières, mais qui semblent incapables de les respecter ou de les faire respecter lorsqu'ils se trouvent dans une salle de séance où opère un médium. Alors, la raison est extrêmement difficile à percevoir. En fait, la raison, il doit y en avoir plusieurs. Je pense que l'un des éléments qui incite les médiums à frauder et qui est une certaine volonté, je dirais, d'apostolat, je pense que cette raison se retrouve aussi chez les expérimentateurs. Je pense également que les expérimentateurs, comme les médiums aussi, dans un certain nombre de cas, ont dû donner le coup de pouce pour produire frauduleusement des phénomènes dont ils étaient convaincus qu'ils existaient, qu'ils pouvaient être produits d'une façon authentique, mais dont les circonstances ne permettaient pas la production et dont ils craignaient que la non-apparition n'induisit en erreur les spectateurs sceptiques qui les entouraient. Je crois qu'il y a ces éléments-là. Et puis, je crois qu'il y a aussi un autre élément. Il faut considérer l'époque à laquelle se sont déroulées toutes ces séances de grands médiums. C'est tout de même une époque soit de scientisme absolu, soit d'un scientisme qui commence à diminuer, qui commence à être un peu battu en brèche. La plupart de ces savants étaient de conviction philosophique, et bien sûr dans leur laboratoire, et ils avaient raison, de très stricts rationalistes. Il y avait là une sorte de porte ouverte sur l'inconnu, ouverte sur un véritable au-delà. Ce n'était pas toujours pour eux l'au-delà des esprits, ce n'était pas toujours l'au-delà de la mort, mais c'était en tout cas l'au-delà de la science, telle qu'ils la connaissaient. Alors je crois qu'il y a là, au fond, deux réactions complémentaires. L'une, une réaction d'honnêteté. Ces savants, n'oublions pas aussi que c'est l'époque où on fait la plupart des grandes découvertes en physique et en chimie. Au fond, c'est l'époque de la découverte de la radioactivité, c'est la naissance de la physique et de la chimie moderne. Ces savants, constatant que l'univers de la physique classique était en fait démantelé, ont pu penser qu'après tout, ces phénomènes n'étaient pas beaucoup plus extraordinaires que ceux qu'ils observaient dans leur laboratoire et qu'en conséquence, il leur appartenait de les étudier avec une grande honnêteté parce qu'il y avait sans doute quelque chose. Je crois que ça, c'était la première réaction. Et puis, je crois que la réaction complémentaire était la suivante, et celle-là n'était pas consciente. Et celle-là était inconsciente. C'était au fond cette volonté de se libérer, non pas d'une science trop pesante, mais d'un scientisme trop pesant. La science elle-même les incitait à se libérer de ce scientisme. Je crois que ces phénomènes dits paranormaux, que leur offraient des médiums spirites pour la plupart, spirites tous pourrait-on dire, je crois qu'il y avait là une espèce d'ouverture sur un autre monde dont consciemment ils ne pensaient pas qu'il serait honnête de fermer la porte et dont inconsciemment ils pensaient qu'il serait au fond bien plaisant et bien agréable de le connaître et de s'y précipiter.
Votre conclusion, Robert Amadou, apparaît donc clairement dès maintenant. Vous pensez toujours, lorsqu'on parle spiritisme et médium, vous pensez toujours supercherie.
Alors là, je voudrais apporter tout de même quelques nuances, si vous voulez bien. Je crois qu'il y a plusieurs distinctions qu'il faut établir. Première distinction, la doctrine spirite et les phénomènes. Je n'ai pas à juger la doctrine spirite, nous ne faisons pas une étude d'histoire des religions et encore moins une étude de théologie, je ne parle donc pas de la doctrine spirite, mais je crois qu'il faut dire que l'étude des phénomènes n'implique pas nécessairement, quelle que soit la conclusion à laquelle on arrive, le rejet ou l'adoption de la doctrine spirite. Je crois qu'il y a déjà une première distinction à apporter. Il est certain que des études de psychologie moderne, et singulièrement de cette branche de la psychologie qu'on appelle la parapsychologie, ont pu mettre en évidence la possibilité, disons, d'une connaissance paranormale. Ont pu mettre en évidence la réalité de la télépathie, et sous certaines réserves, qui seraient hors de propos puisque ce n'est pas notre sujet, de la voyance. Donc là, je crois, il y a un certain nombre de phénomènes qu'il n'est certainement pas justifié de rejeter a priori ni surtout après examen, car cet examen semble bien montrer qu'il y a quelque chose, que ce quelque chose nous est encore très obscur, mais mérite néanmoins d'être étudié et que les premiers travaux sont tout de même garants de progrès qu'on peut effectuer dans ce domaine. Et puis, deuxième catégorie, donc les phénomènes physiques, c'est-à-dire ceux qui ont été rapportés au grand médium dont nous avons parlé et à bien d'autres. Ces phénomènes physiques, je crois qu'il serait illogique et peu conforme en tout cas à la logique scientifique de dire qu'ils n'existent pas. Il n'est évidemment jamais possible de dire que la licorne n'existe pas, ni que les îles Fortunées sont un rêve. Tout ce qu'on peut demander, c'est qu'on nous présente une licorne ou qu'on nous indique le chemin des îles Fortunées. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de phénomène paranormaux physique parce qu'on ne peut jamais dire que rien n'existe ou n'existe pas. Mais je crois que l'on doit constater simplement, lorsqu'on a examiné avec soin et passé en revue toutes les expériences les plus scientifiques qui ont été faites avec des grands médiums, on doit constater que rien n'a été prouvé.
Luc Bérimont vous a présenté Robert Amadou dans Les Grands Médiums. Une enquête radiophonique réalisée avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide. Mise en onde Bernard Gandré-Réty. Collaboration artistique Hélène Delabrusse et Anne Spies. Les grands médiums, une enquête du dossier secret.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 26 décembre 1957.